Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débrief l'actu avec du beau monde ce soir, mesdames, messieurs. Je l'ai dit tout à l'heure sur la petite vidéo réseaux sociaux, c'est un casting 5 étoiles. Rendez-vous compte, Marjorie Paillon, salut Marjorie.
Je suis la 5e étoile, c'est ça ou la première, je ne sais pas.
La première étoile. En tout cas, tu es notre étoile.
Oh, c'est voilà. Beau. Après, oh, c'est
la première ou la cinquième, on verra.
Le cœur aussi.
Merci.
Très joli pull si vous êtes avec nous à la télé. Écoutez, en tout cas, si vous n'êtes pas avec nous à la télé.
Petite marque extrêmement sympathique.
Très bien.
Une capacité, mais...
À côté de toi, c'est Didier Sens. Donc, casting 5 étoiles.
Tout à fait.
Didier, journaliste dédié à la tech depuis quelques années. Et en face de vous, Jérôme Colombin. Salut Jérôme.
Salut François.
Voilà,
bonjour à tous.
Que vous connaissez aussi, journaliste. Et podcasteur, voilà, vous pouvez le retrouver avec son média, le monde numérique, des podcasts, des interviews, plein de choses.
Des vidéos.
Voilà, des vidéos.
5 étoiles, les toilettes, master bedroom, tout ce que tu veux.
Exactement. Bon, messieurs, dames, on va passer cette petite heure ensemble jusqu'à 21h pour débriefer l'actu. On va parler réseaux sociaux avec voilà, ce serpent de mer de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, encore les politiques s'emparent de ce sujet. Est-ce qu'on va y arriver? Ça me paraît compliqué, mais voilà. Le réseau Truth Social de Donald Trump. Ben voilà, ça marche bien. Et l'entrée en bourse est vraiment plutôt très très bonne. On va en parler tout à l'heure. On parlera aussi beaucoup cybersécurité. Les emplois anglo-saxons qui pourraient être, on va dire, menacés à cause de l'IA. Et on parle de 8 millions d'emplois. C'est quand même assez étonnant. C'est Marjorie qui a sélectionné ce sujet. Et puis on terminera, si on a le temps, avec le dernier clip de Big Flo et Oli. Vous savez que Big Flo et Oli cartonnent en ce moment. Alors évidemment, ils sont juges à The Voice. Mais voilà, ils font plein de tubes. Et leur dernier titre, en fait, est un clip qui a été réalisé par l'intelligence artificielle. Ça fait un peu le débat, ça fait parler. Et Didier voulait évoquer ce sujet avec nous. Mais pour débuter donc, on le disait, la WWDC, c'est la conférence des développeurs qu'Apple nous propose chaque année. C'est le 10 juin, je crois, c'est ça. Hein, voilà, le 10 juin prochain. À Cupertino, dans le fief d'Apple, hein, dans l'Apple Park. Et alors, pourquoi on parle d'une annonce qui aura lieu le 10 juin ? C'est pas qu'on est complètement débile et fou d'Apple, c'est que cette WWDC va avoir peut-être un goût un peu particulier, parce que Apple devrait faire sa transformation dédiée à l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on attend. Alors, bien sûr, cette WWDC sera à vivre dans Tech & Co sur BFM Business, mais d'ores et déjà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que cette WWDC va être un peu le nouveau départ d'un Apple qui est quand même un peu chahuté, hein ? Il y a le DMA.
Ils sont très très en retard sur l'IA. C'est impressionnant d'ailleurs, parce que eux qui rattrapent le coche régulièrement, oui. et en apportant souvent une patte plus originale, là ils ont été complètement largués par l'arrivée de l'IA générative. Siri n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un assistant personnel. Alors pourquoi on en parle à la WWDC ? Parce que c'est le lieu où se rencontrent tous les développeurs, donc il faut qu'Apple leur montre un peu les pistes de développement sur lesquelles vers lesquelles s'oriente la marque.
Rappelons que l'année dernière, c'était durant la WWDC qu'ils avaient annoncé le Vision Pro.
Absolument. Donc ils en profitent pour montrer un peu ces nouvelles directions. On parle assez rarement de matériel, c'est pour ça que c'est intéressant l'année dernière qu'ils parlaient du Vision Pro. Il y a quelques années en avant, ils avaient montré aussi d'autres choses, le Mac Pro, etc. Donc c'est d'habitude dédié aux OS. Donc on va parler de macOS, on va parler de iOS, on va parler de iPadOS, de WatchOS, etc. Et ils sont obligés de dire qu'ils ont entendu leurs clients et leurs développeurs leur parler d'IA. Donc ils vont être obligés d'aborder ce sujet. Sous quelle forme, ça reste encore à explorer. On sait qu'ils ont racheté une petite entreprise spécialisée dans l'IA générative. On sait qu'ils seraient en pourparlers avec Google pour étudier la faisabilité d'utiliser Gemini. Ce qui ne serait qu'une solution transitoire, puisqu'on sait qu'Apple est très jaloux de ces technologies et que
ils aiment bien faire tout maison dans sa marmite. Hein.
Ils ont fait leur processeur pour éviter l'emprise d'Intel. Ils ont fait leur OS depuis des années. Donc, ça ne serait que transitoire. Et on est très curieux donc de voir arriver un Siri qui serait enfin intelligent.
Ouais. Parce que pour aujourd'hui, c'est pas un assistant personnel, c'est plutôt un assistant impersonnel, hein, Siri. Hein.
Ah là, il est aux abonnés absents.
Il est abonné à ça. Enfin, un peu comme Alexa d'ailleurs et Google, parce que c'est vrai qu'on pointe du doigt Siri, mais les autres sont pas vraiment plus intelligents. Hein. Pas encore, si ?
Ouais, je sais pas. Enfin, moi, Siri, je le mets vraiment en bas de la liste.
En bas de la liste, ouais, d'accord.
Mais c'est vrai que cette WWDC, alors le slogan, parce qu'il y a toujours la phrase choc, la punchline, c'est absolutely incredible. Avec un A majuscule, un I majuscule, qui rappelle curieusement le AI. Alors tu as raison de dire qu'on les attend sur l'intelligence artificielle, parce que on sait qu'il y a des choses qui se trament. Google, Gemini, peut-être, mais aussi peut-être Anthropic, peut-être OpenAI. Et il y avait un papier assez intéressant de Mark Gurman de Bloomberg, là, qui est le journaliste américain très bien informé sur Apple, qui émet plusieurs pistes et qui explique notamment pourquoi Apple pourrait décider de sous-traiter, en quelque sorte, au moins temporairement un chatbot à l'une de ces marques, ben c'est parce que ça présenterait différents avantages. Des avantages comme par exemple, on sait qu'aujourd'hui il y a encore plein d'incertitudes sur les droits d'auteur, les questions éthiques, etc. Et ben là, Apple s'enlèverait les mains puisque finalement, c'est pas lui qui s'en occuperait, ce serait son sous-traitant. Idem, des choses toutes bêtes, mais la ressource, la puissance, les data centers, il faut les mettre en œuvre, il faut les faire... Ben c'est pareil, c'est pas Apple qui s'en occuperait.
En revanche, ça risque de leur coûter cher.
Ah, ça
la prestation,
leur...
enfin, ils ont pas de problème là-dessus.
Ils ont pas de problème là-dessus. Clair, et puis clair. Apple, Google, si c'est, ça devait être Google, leur verse déjà, c'est quoi, 20 milliards par an de 20 000, je sais
moi,
plus.
Je crois que c'est entre 15 et 20 milliards, ouais, c'est
20 milliards par an pour être le
pour
moteur,
être le
de,
moteur
recherche,
de recherche par défaut dans par Safari. Défaut,
ouais. Mais juste pour finir avec Gurman, il pose une question intéressante. Il dit, mais au fond, peut-être qu'Apple ne croit pas au chatbot d'intelligence artificielle. En tout cas, ne croit pas à l'heure actuelle à la réussite économique et au modèle économique des chatbots. Et c'est aussi l'une des raisons qui fait qu'ils y vont sans y aller. Donc on a quand même hâte de voir où ils vont aller.
Je partage pas du tout cette analyse parce que depuis le début, Apple a toujours été, a toujours voulu créer son assistant personnel. Je sais pas si tu te rappelles, dans les années 90, ils avaient créé le Knowledge Navigator. Tu te rappelles de cette vidéo où on voyait un bonhomme qui parlait avec son... ce qui n'était pas encore une tablette tactile, mais qui était un
incroyable vidéo,
comme ça.
Très visionnaire.
Voilà.
Hein, avec
Et on voyait très bien ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'ils ont créé Siri, c'est pour ça que même au début, à l'époque du Mac, il y avait aussi une interface vocale qui exécutait les commandes qu'on lui donnait. Donc ils sont très très branchés là-dessus. Je pense qu'ils sont...
Non mais je suis d'accord, ce serait étonnant qu'ils fassent machine arrière aujourd'hui.
Ils peuvent pas faire l'impasse là-dessus, ils peuvent pas.
Marjorie, est-ce qu'ils sont au pied du mur finalement ?
Alors, tu parlais tout à l'heure des développeurs, des consommateurs qui leur ont bien fait remarquer que l'IA générative n'était pas tout à fait dans la logique Apple. Il y a le marché aussi, parce qu'Apple a quand même perdu 10% de son action depuis le début de l'année 2023. Donc, il y a forcément une sanction qui va arriver. Et Tim Cook sait très bien que s'il ne met pas Apple à la page de l'IA fût-elle générative, ça va commencer à se voir. Donc, ce qu'on attend le 10 juin notamment, c'est à la fois des opportunités pour les développeurs et les développeuses s'en saisir, des OS, on nous parle même d'iOS 18 qui serait la plus grande révolution en matière d'OS pour l'iPhone existant, donc on va voir ce que ça donne sur l'iPhone 16.
Je me méfie des superlatifs chez Apple, mais bon,
oui, mais bon.
On a le bénéfice du doute.
On va voir ce que ça donne pour les iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro qui doit arriver en septembre prochain, qui devrait arriver en septembre prochain, et puis tout ce que ça veut dire en matière de device. Il n'y a pas d'OS sans device qui va avec. Quand on a poussé en tout cas sur cette première partie de saison Apple Vision Pro et qu'on essaie justement de donner le là de cette informatique spatiale, de la mixer avec du contenu, avec du divertissement, avec de l'entertainment, avec pourquoi pas soyons fous de l'IA à un moment donné, qu'est-ce que ça peut donner et qu'est-ce que Vision OS peut justement offrir à ses développeurs et à ses développeuses en matière de créativité. Donc ça va être intéressant à voir. Et puis en effet, ça va nous permettre de réussir à comprendre si les rumeurs sur l'alliance et le deal avec Google pour Gemini, sur le deal avec, avec OpenAI pour ChatGPT sont réelles ou pas. On va voir jusqu'à quel point aussi ils peuvent s'interfacer. Il y a deux choses que tu disais, Jérôme, qui sont fascinantes. C'est en effet le fait que
pour
peut-être...
Pour une fois qu'il
dit quelque chose de fascinant, absolument. Non, mais c'est le fait aussi que Tim Cook et toutes les big tech anticipent finalement les coûts de régulation qui arrivent a posteriori. C'est-à-dire que là, S'ils faisaient une vraie grosse alliance avec, avec Google pour Gemini, pour intégrer Gemini dans les OS et les devices Apple, il y a quand même juste la Commission européenne d'un côté et puis quand même la FTC de l'autre côté États-Unis qui va regarder en se disant, dites donc, ça c'est quand
ça
même...
Ça fait pas un peu too much?
Ça s'appelle un futur abus de position XXL. Et c'est intéressant, donc on va regarder ça de près. Donc je pense en effet que ça va être intéressant pour Apple de pas mettre ses œufs IA dans le même panier, donc diversifier au maximum les interopérabilités qu'ils peuvent faire avec d'autres solutions d'IA générative et voir comment ils peuvent justement éviter ces choses trappes en matière de régulation à venir, parce que ça aussi, ça leur pend au nez.
Ce qui est intéressant, c'est que il y a déjà des précédents de smartphones qui ont vu leur IA arriver. Samsung a dégainé le premier avec un Galaxy S24 qui était boosté à l'intelligence artificielle. On s'est dit, bon, c'est peut-être du marketing, etc. Ben, pas du tout. Les ventes de S24 ont explosé.
Oui, voilà. Enfin, le rapport de cause à effet.
Bah, pourquoi pas. Tu te dis, c'est peut-être parce que justement, et je sais pas si tu as vu les pubs qu'il y a dans les magasins et trucs comme ça, c'est Samsung Galaxy 24 boosté à l'IA, etc.
Et avec Gemini en l'occurrence.
Et avec Gemini, oui, et voilà, ils ont travaillé avec Google pour apporter leur IA, mais on a l'impression que c'est aussi un argument de vente supplémentaire sur un marché du smartphone qui s'essouffle, où tous les smartphones se ressemblent, ils font tous de belles photos maintenant, ils ont tous une autonomie correcte. Voilà, et là c'est un petit différentiel chez Samsung qui apporte quelque chose. Et d'ailleurs, Honor vient de sortir un nouveau téléphone. Pareil, il communique sur l'intelligence artificielle. Donc, si Apple, qui voit un peu ses petits copains, bien voilà, rebooster leur vente simplement en communiquant sur l'intelligence artificielle, là, ils vont être, à mon avis, sont au pied du mur, quoi.
Ouais. Non, mais c'est intéressant. On peut penser que l'IA fait vendre, en fait. Et ça, il y a une appétence, il y a une curiosité. Tout le monde entend parler d'intelligence artificielle depuis un an.
C'est vraiment le truc hype, en plus.
Voilà.
Au-delà des usages, voilà.
Et c'est drôle parce que je pense qu'il y a une partie des gens qui ont un peu peur, évidemment, enfin, voilà, pour X raisons. Mais il y a aussi beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'appétence et oui, le S24, c'est certainement un des facteurs de séduction.
Après, on le dit souvent, il faut éviter de jouer aussi au bingo blabla et au buzzword à l'envi dans des grandes périodes comme ça de mode et de trend technologique.
Ouais.
Mais j'écoutais Anthony Morel, autre personnalité fascinante, n'est-ce pas, qui, il y a quelques jours, donnait cette info absolument dingue, la SEC ayant sanctionné deux boîtes de fintech aux États-Unis pour avoir trop vanté leurs outils d'intelligence artificielle générative, qui en réalité n'était pas réelle et donc tromperie sur la marchandise en quelque sorte. Et bien ça aussi, ça va être intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Apple va pouvoir rendre lisibles les features avec de l'IA générative, concrètement, si je booste mon smartphone, mon iPhone à l'IA générative, ça me donne quoi pour moi en tant qu'utilisateur utilisatrice, comme rapidité d'interaction, comme facilité de connexion.
Bah déjà Siri, si on a un Siri un peu plus intelligent, ça serait cool.
Mais même Luc Julia dit que Siri est le logiciel le plus bête qu'il ait jamais
montré. Oui, c'est ça. Et il disait, on lui avait posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner un peu d'intelligence à Siri? Il a dit, il faut tout changer. Parce qu'en fait, toute la structure de Siri a été faite il y a des années, et voilà, il faut repartir d'une page blanche et réinventer Siri, et ça prend des années, des années. C'est peut-être pour ça aussi qu'Apple se précipite vers des sous-traitants d'IA, parce qu'ils sont pas prêts. Et je pense que c'est ça aussi. On a vu qu'il y avait des mouvements de personnalités de l'IA qui arrivaient chez Apple.
Ils ont arrêté la voiture, et notamment ils en ont profité pour basculer les équipes sur l'IA.
Oui, mais bon, tu sors pas un large language model comme ça en 6 mois. C'est pas possible, même si tu t'appelles Apple.
Comment ça montrait et sur les blogs, ils commencent à montrer un peu des expériences qu'ils font, notamment sur la reconnaissance d'image, sur la description d'image, etc. Ils travaillent sur le sujet, voilà.
Mais il y a même on parlait d'un papier de recherche qui était, paraît-il, hyper prometteur sur leur modèle qui s'appelle,
Ajax.
Non, ça doit s'appeler LMA, en cours MMA ou MM1, je ne sais plus. Et qui, surtout, serait multimodal. C'est ça, c'est le nouveau graal de l'IA.
Audio, vidéo, écrit.
C'est multimodal en entrée, en sortie. Je peux te faire du texte, de l'image et de la vidéo, mais aussi je peux te reconnaître du texte, de l'image ou de la vidéo. Avec, on te montre une bouteille de bière et un ticket de caisse, et l'IA arrive à comprendre le prix de la bouteille de bière, en fait. Ça, c'est
pas mal.
C'est un cap intéressant.
Donc, en fait, c'est quasiment un smartphone figuré AI. On a été fascinés par cette vidéo avec l'incorporation de ChatGPT dans Figure One, qui est le robot humanoïde.
Qu'on avait commenté et qui était impressionnant, c'est vrai.
On a eu très peur. On a eu très peur.
Ce truc-là, c'est incroyable, hein, ce robot qui répond.
Et surtout,
au doigt et à l'œil, à ce que lui dit l'humain, c'est fou, quoi.
Ouais. Une question de rapidité qui est.
Qui est assez impressionnante. Bon, on verra bien, mais tiens, c'est vrai qu'on se dit que toutes ces fonctions IA sur l'iPhone, ça pourrait être quoi? Bah, si on regarde ce qui se passe sur le Galaxy S24, c'est la traduction en temps réel si vous appelez un étranger. Mm-hmm. Voilà, vous êtes en train de dialoguer avec lui et vous avez un interprète géré par l'IA qui vous traduit tout ça.
Ce que propose à peu près le S24.
D'ailleurs. C'est ça. Ouais. Ben voilà. Il y a aussi des systèmes de résumés, de conférences, enfin des choses d'ailleurs qu'on peut avoir sur l'iPhone en installant des applis, parce que tout ça existe déjà. Hein. Mm. Vous pouvez installer ChatGPT sur votre iPhone. Enfin, il y a plein de choses qui sont déjà fonctionnelles, mais pas dans le dur du téléphone.
Voilà. Je pense que maintenant, on va passer...
En plus, je pense que Apple est assez pointilleux là-dessus. Donc, ce qu'ils aimeraient, c'est sans doute que les traitements se fassent en local au lieu d'aller se balader sur le cloud.
C'est ça, oui. Autre débat, ça.
Safety first.
Non, mais ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a maintenant ce qu'on peut faire, donc c'est l'étonnement sur ce qu'on peut faire, mais on va vite arriver à... OK, mais il faut le faire bien, quoi. C'est pas le tout d'avoir un traducteur ou d'avoir, mais il faut qu'il soit parfait, le meilleur, parce que les assistants vocaux c'était fascinant au début, mais aujourd'hui on est tous à dire qu'ils sont pas bons, que Siri est nul, etc. On devient de plus en plus exigeant.
Bon, alors sur le tableau blanc du bureau de Tim Cook, il y a mettre de l'IA à fond dans iOS 18. Il y a pas que cette ligne, il y en a d'autres.
Trouver le des DMA. Trucs à faire avec.
Qu'est-ce qui m'emmerde ces Européens, je pense, d'avoir ça.
Oui, vous êtes oui.
Et dessous, peut-être, le gouvernement européen et le gouvernement américain qui m'ennuie un petit peu aussi, pour rester poli. Hein.
À cause sans doute des Européens.
Oui.
À cause sans doute des Européens. Alors, on en parle quasiment tous les soirs dans Techno, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, on va dire que Apple est en train de vivre une période qu'il n'a jamais vécue et qui risque de transformer profondément cette boîte? Ou est-ce que vous pensez que finalement, ils ont tellement d'avocats, tellement d'argent, qu'ils vont pouvoir gagner tellement d'années avant
Oui, ça dure un temps, l'histoire d'avocats et d'argent, mais le fait est que c'est vrai que...
On est d'accord que ça craque quand même,
oui,
dans tous les sens.
C'est tout le modèle qu'a bâti Apple depuis des dizaines d'années qui est en train d'être remis en question.
En Europe, les États-Unis, ça commence vraiment à grincer des dents. Hein.
Bah, c'est les modèles intégrés qu'on veut voir finalement imploser. Que le régulateur, les régulateurs et régulatrices de tous les pays tentent de faire imploser pour pouvoir ouvrir, parce que c'est leur job, au maximum la concurrence. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir, parce que la question que tu poses en réalité, c'est la legacy, c'est l'héritage de Tim Cook. Est-ce que c'est un héritage purement business et régulation? Est-ce que c'est un héritage purement produit et innovation? En tout cas, pour l'instant, par rapport à un Steve Jobs, on peut pas dire que ce sera un héritage de progrès pur et dur. Tu sais que le progrès, c'est ce sur quoi toutes les plateformes, toutes les big tech, ce à quoi, ce rêve auquel elles ont voulu nous faire croire et auquel on a adhéré aussi, en étant fasciné un petit peu aussi par les technologies qu'elles nous proposaient au fur et à mesure. Qu'est-ce qui va rester de Tim Cook? Ça, c'est vraiment la question à 1000 dollars pour l'instant.
Didier, tu avais commencé ta petite
réflexion
là-dessus.
Oui, je pense que c'est intéressant parce que c'est en fait deux idées de l'entrepreneuriat qui s'affrontent. L'idée des États, qui n'est pas la même que celle des entreprises. Encore une fois, Apple avait créé un modèle qui était qui s'est de plus en plus resserré avec ses applications, avec ses partenaires. On a parlé tout à l'heure de ses matières premières, le fait qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs processeurs, etc. Parce que Apple est part du principe que rien n'est mieux que l'intégration pour offrir le meilleur bénéfice aux clients. Ça se discute, c'est pas la question n'est pas là, mais c'est ça qu'on met en question. Donc, ça veut dire, c'est leur mode de pensée, en fait, qu'on est en train de remettre en question.
Oui, c'est leur matrice.
Oui.
Après, il y a aussi leur modèle économique, il y a leur modèle de pensée, et ce modèle de pensée, ça tombe bien, il fait gagner beaucoup d'argent.
Ah oui. Aussi. Ouais, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas injuste, c'est un autre débat. Quoi.
Je ne sais pas si c'est une question si secondaire aussi. Est-ce que c'est bien ou pas bien le modèle fermé? Parce que franchement, on pourra en débattre, avoir des avis sur la question. Ça a beaucoup d'avantages. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que il y a le côté expérience utilisateur. Ils ont toujours mis ça en avant. Oui. Mais bien sûr qu'il y a le côté prison dorée, chasse gardée. Le côté, tu as l'iPhone, tu vas acheter la Watch, tu vas acheter l'ordinateur parce que tout fonctionne ensemble. Et le jour où on ouvre, c'est ça qu'on fait trembler. Maintenant, il y a autre chose. Moi, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de repenser au glorieux prédécesseur dans une bataille identique qui était Microsoft dans les années 90. La situation n'était pas la même puisque Microsoft avait essuyé les mêmes accusations, mais il n'était pas sur cette logique totalement fermée. Donc, effectivement, la donne n'est pas tout à fait la même. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des mois, des années de procédures, de batailles, etc. Microsoft a réussi à mettre de l'eau dans son vin, à se retourner, à virer de cap. Les technologies ont évolué, tout a évolué. Donc Apple, on n'a pas de souci à avoir pour eux.
Non.
Ils s'adapteront, mais je suis d'accord que c'est certainement une période.
C'est une remise en question d'un modèle quand même.
Ouais.
Mais enfin, quand tu vois qu'aux États-Unis, ils attaquent iMessage, qui devrait être compatible avec les autres téléphones, et notamment les téléphones Android.
Finalement.
Ça va être un peu le cas finalement avec le RCS qui va arriver, donc peut-être qu'Apple a anticipé ce problème-là. L'Apple Watch, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Apple Watch, elle est montrée du doigt aux États-Unis parce qu'elle est vraiment dans un système fermé, dans cet écosystème avec iPhone. Et justement, le gouvernement américain aimerait que l'Apple Watch puisse être compatible avec les autres téléphones, en fait.
Encore une fois, c'est idéologique.
Oui, c'est idéologique. Ouais. Et c'est impressionnant. Et je trouve que parfois même, les décisions du gouvernement américain sont plus dures que celles de l'Europe. c'est intéressant, ça va être intéressant de voir comment tout ça évolue. Enfin bref, on verra bien. Mais sur le tableau blanc de Tim Cook, il y a 2-3 lignes quand même en ce moment. Et c'est vrai que, voilà, en plus lui, on l'a dit, hein, il compte prendre sa retraite, on ne sait pas quand. Il commence. Alors, il n'est pas vieux, hein, Tim Cook, mais bon, voilà, il faut laisser la place aux jeunes, surtout dans des boîtes technologiques comme ça, où il faut être vraiment à la page, penser le coup d'après, etc. Alors, même s'il est bien entouré, il va sentir maintenant qu'il faut passer la main.
Mais en plus, Apple, c'est une boîte de vieux, hein.
C'est vrai que ça a toujours été une boîte de vieux, tu as raison.
Enfin, toujours, je sais pas, mais aujourd'hui,
tous les
t'as
grands.
Pas de petits génies dans le top 10
non,
management.
C'est
que des vieux de la vieille, des mecs qui étaient quasiment tous là avec Steve Jobs.
Bon, on referme la page Apple, on aura l'occasion de la réouvrir, ne vous inquiétez pas. On s'attaque à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Sujet. Ouais.
On va te régler ça très vite.
Important. Paul Midi, député Renaissance, vous avez peut-être suivi ça, c'était en début de semaine, avec 125 co-signataires, membres de la majorité, veulent que les utilisateurs des plateformes soient contraints de s'enregistrer. Donc on s'enregistre, alors soit par une interface France Identité, etc., avant d'aller sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Pour qu'en fait, on ait une couche au-dessus, une espèce d'ombrelle d'identité, pour qu'on puisse vous reconnaître facilement. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là ?
Sondage à l'appui, 85%.
Mais oui, mais le sondage, il vient d'où ? Personne ne sait d'où il vient, ce sondage.
Ah, le sondage qui est recité.
Tu sais quelle est la source ou pas ?
C'est pas un organisme.
En l'occurrence, c'est Harris Interactive et l'Axel, en fait, qui il y a quelques semaines.
Non, moi, il y a trois choses qui me gênent dans cette histoire-là. Un.
Deux, trois, Didier. Je sens Didier un peu remonter les années. Attention.
Les gens qui disent Yaka. Voilà. On va résoudre le problème de la cybercriminalité et du harcèlement sur Internet. Il n'y a qu'à supprimer l'anonymat sur Internet.
Déjà, un peu comme les 3 gigas par semaine.
Voilà. Hein. Les mecs qui ont des formules toutes faites comme ça, et un problème. En plus, c'est un truc qui recycle tous les 3 ans. Hein.
Ah, ça revient régulièrement.
C'est un vieux serpent de main.
Alors, ça, premièrement. Deuxièmement, l'histoire de l'anonymat sur Internet, mais on est où ? Je veux dire, ce qu'il veut, c'est ficher les gens. C'est ça, en fait. C'est ficher les internautes. En fait, l'anonymat sur Internet, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas ça. On sait très bien qui sont les gens. Regarde, au procès de Magali Berda, ils ont chopé combien ? Une trentaine de mecs qui ont défilé.
Ouais.
Ok. Le procès de la
CIPE.
Oui, mais parce que la loi de 2004 sur l'économie numérique a déjà.
Il y a des lois qui existent.
Sauf
tu veux
c'est
savoir
côté hébergeur et côté telco. Enfin,
mais c'est compliqué. C'est long, compliqué.
J'ai pas fini ma démonstration. Donc il y a des lois qui font ça. On l'a vu pour Magali Berda. On l'a vu pour la petite comment elle s'appelle Mila, c'est ça, qui s'est harcelée.
Oui.
15 mecs qui ont défilé devant la barre, qui ont été condamnés. On l'a vu avec les 3 bonhommes qui ont chopé les données de France Travail, etc. Donc on peut remonter, l'identité des gens. Stop, laisse-moi finir. On le sait, c'est facile.
Attention, ne marchez pas sur les pieds de Didier.
Il a une adresse IP, on remonte à son fournisseur d'accès. L'adresse IP, c'est monsieur machin qui paye son abonnement à tel endroit, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les moyens et le personnel.
Ouais.
C'est-à-dire que il faut appliquer ces lois. Les lois existent. On peut savoir qui fait quoi sur Internet. Mais simplement, il faut qu'il y ait des enquêteurs. Il faut qu'il y ait des gens qui soient présents pour aller justement débusquer l'identité de ces gens et donc des moyens. Et ça, le problème, c'est là. Ouais. Donc ça sert à rien dire. Il y a qu'à créer des plaques d'immatriculation pour les gens, c'est quoi? On est où là? Ou faire je ne sais pas quoi? Ça existe. On peut savoir qui sont les gens. On peut.
En l'occurrence, c'est déjà un argument que Paul Midi avait défendu en amendement dans la loi numérique que Jean-Noël Barrot présentait il y a quelques mois lorsqu'il était ministre délégué au numérique et aux télécommunications. Je le rappelle, ça fait toujours sourire. Amendement qui avait été lâché par la majorité et par le gouvernement en disant, mais en l'occurrence, ça existe déjà dans la régulation européenne, donc on va se faire taper de toutes les façons par la Commission, puisque y a déjà une transposition qu'on doit faire. Par ailleurs, il y a déjà 50 nuances d'anonymat ou de lever l'anonymat en ligne qui existent. Encore une fois, la loi de 2004 sur l'économie numérique qui oblige les FAI, les telcos et certaines plateformes à donner des informations d'identification d'usagers, d'utilisateurs contrevenants, en cas de cyberharcèlement, en cas de crime majeur, en cas de toutes de mes informations, tous les cas que tu as donnés sont absolument là pour en témoigner. Et puis, aujourd'hui, Marina Ferrari redit à Paul Midi et à ses co-signataires, on n'a toujours pas changé de position en l'occurrence, ce sera toujours non. C'est-à-dire que la levée de l'anonymat, le gouvernement ne la souhaite pas. Donc, c'est pas la peine d'insister, les amis, on a d'autres moyens pour pouvoir réussir à faire que l'identification des utilisateurs contrevenants puisse justement être faite. Par contre, ce que Paul Midi ajoute à ces 50 nuances d'anonymat, c'est le pseudonymat, dont il dit qu'il faut absolument ouvrir le pseudonymat pour les utilisateurs les uns entre les autres.
Il n'y a pas dit ça, hein.
Ah si, il dit ça à un moment donné, je te jure, dans la lettre.
Il dit que publiquement, le pseudonymat serait maintenu.
Oui.
Tu peux continuer à t'appeler Josette 92.
Oui,
mais
ça complètement.
C'était toi.
Mais simplement, la police veut savoir qui est derrière Josette 92, serait beaucoup plus facile.
Vous savez quoi?
Ouais.
On va enquêter sur Josette 92.
Okay.
Pendant l'info écho. Et on revient, parce que je sais que Jérôme a des choses à dire là-dessus. On va terminer sur la loi. Cette loi. C'est même pas une loi.
C'est un ballon
son. Voilà. qui n'arrivera jamais. Mais on va terminer là-dessus. On parlera aussi de Truth Social. C'est l'arroseur arrosé, hein, finalement. Donald Trump, qui il y a quelques années s'était fait gicler de tous les réseaux sociaux, avait créé son Truth Social. Maintenant, ça cartonne. Il paraît qu'il est hyper riche maintenant grâce à son réseau social.
On va y revenir.
Voilà.
Il y a 50 nuances aussi de vérité là-dedans.
Et vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne, revient dans quelques minutes avec Marjorie, Didier et Jérôme. À tout de suite.